Bon matin tout le monde, bienvenue à ce nouveau partage. Aujourd'hui, on est chez JP et puis on a Prince JP avec nous autres. On a Princesse Nicole, Princesse Marilyn et moi-même pour vous servir. Et puis aujourd'hui, on va continuer nos partages sur l'amour. Puis on avait commencé à étudier ce qui n'était pas l'amour. Hein? Parce que ça aussi, si on étudie ce qui n'est pas l'amour, ça va nous aider aussi à discerner ce qui est l'amour, puis comment est-ce qu'on doit réagir dans les situations, à reconnaître ces choses-là quand ils viennent dans nos vies pour pas les écouter. Parce que si on les écoute, on marche avec le mauvais royaume. Donc, si vous voulez, on va prier, on va mettre ça au Seigneur. Après ça, on va prendre le temps de saluer les gens pour pas les oublier, pour être familier, les gens qui nous oublient. Donc, on va prier, on va demander au Seigneur qu'il vienne bénir ce partage. Père, on veut dire merci pour cette réunion ce matin. Merci qu'on puisse être là. Parce que si on est ici, c'est par ta grâce, Seigneur. On veut pas être familier avec ta parole, Père. Et puis, on veut vraiment que tu viennes nous enseigner par ton Saint-Esprit. Ouvrir les yeux de notre cœur. Comme tu as dit dans la parole, là où deux ou trois seront assemblés à mon nom, je serai parmi eux. Puis, Seigneur, si tu n'es pas parmi nous ce matin, cette réunion est vide. Et puis, on veut pas être vide. On veut être rempli ce matin, Seigneur, par ta présence. On veut être rempli par ton Saint-Esprit. On veut que tu nous enseignes, Seigneur. On veut proclamer que tu es notre grand Dieu. Ce matin, on s'attend à toi. On veut écouter ce que tu as à nous dire pour la gloire du nom de ton Fils Jésus. Amen. Et puis, on veut saluer les gens sur Internet, Claire, qui nous écoutent assidûment. Et puis, Michel, Jacques, Pasteur Laurier, sa femme Raymond, Cécile, Claudia et Bulle, Rémi, et puis Carmen, Lynn, et puis André, Louis. C'est qui ceux-là? Ce sont mes frères. Et puis, je veux saluer toutes les gens qui nous écoutent sur Radio Prédication. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce humble partage qui est pour la gloire de Dieu, parce que on veut pas se glorifier de rien. Parce qu'on n'est rien. On n'est rien sans Dieu. On n'est rien sans la présence de Dieu. Et puis, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on avait, comme je disais tantôt, on avait commencé à voir ce que l'amour n'était pas. On avait vu la semaine passée l'envie. Hein, l'envie et la jalousie. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est destructeur. D'envier les choses des autres. C'est destructeur. Ça détruit. Et puis, on avait vu que dans l'original, Marilyn, tu t'en vas sur Nicole. On avait vu que dans l'original, ça voulait dire brûler ou bouillir de jalousie, le mot. Et puis, l'envie avait divisé aussi, avait été la cause de division dans l'église de Corinthe. Hein? On avait vu ça. Et puis, on avait vu comment c'est destructeur d'envier les autres. On avait vu qu'au contraire, l'amour se réjouit du bonheur des autres. C'est-à-dire, quand on est envieux, là, on voit quelqu'un qui a du succès, ça nous afflige. Hein? Ça nous affecte de voir que la personne a du succès. Tandis que quand l'amour est content de voir qu'une personne a du succès. Puis aujourd'hui, on voit, on continue parce qu'il y avait 8 vices hein, qui ont été nommés dans le 1 Corinthiens 13. On avait vu qu'il y avait 8 vices. Et aujourd'hui, on va voir la vantardise et l'orgueil. Ça veut dire que c'est pas béni d'écouter ça, c'est très béni, parce que ça nous donne des armes, ça nous donne du discernement pour nous-mêmes, quand on a des réactions, à savoir de voir venir ces réactions-là, puis de pas les écouter. Mais on va voir ensemble aujourd'hui, la vantardise et l'orgueil. La vantardise, la définition, c'est affichage de soi-même en employant des expressions qui ont pour but de s'embellir soi-même et de se donner de l'importance. Ouh, c'est pas pire, ça. Comme l'envie, la glorification de soi, c'est quoi? C'est de la glorification personnelle. Quelqu'un qui se vante, c'est qu'il veut se glorifier. Puis il veut être glorifié. Donc, ses yeux sont tournés sur lui-même. Hein? Ses yeux sont tournés... Pas ses œufs. On n'a pas mangé d'œufs, maintenant. Ses yeux sont tournés sur lui-même, et puis, il est très égoïste. Tout ce qu'il fait, c'est pour les calculateurs, c'est pour lui, c'est pour son jeu. Vous savez que la trinité satanique, vous savez c'est quoi? La trinité satanique, C'est je, me, moi. On pense rien qu'à nous autres. Hein, Nicole, ça veut dire qu'on pense rien qu'à nous autres, on pense pas aux autres. Je sais que t'es pas comme ça, toi. Tu vas être un beau cœur. On aimerait, j'aimerais ça avoir un cœur comme le tien. Et puis, c'est une préoccupation coupable de nous-mêmes, de la vantardise. Et puis, les vantards, ils polarisent l'attention des autres autour des autres sur eux-mêmes. Ils veulent absolument être le sujet d'attraction. Ils vont tout faire. Ils vont manipuler les gens autour d'eux autres pour toujours avoir cette attraction-là. Et puis, ils veulent que les autres les louent. Ils veulent, dans le fond, là, on va voir que c'est pas mal toujours la même affaire. Mais qu'est-ce que l'ennemi, il voudrait? Il veut qu'on l'adore. Hein? L'ennemi, il veut qu'on adore lui à la place de Dieu. Et puis ça, c'est la nature qu'on a reçue, qui vit en nous, qui veut ça. Elle aime ça, on aime ça dans notre nature pécheresse, elle aime ça. Notre nature adamique, notre nature qu'on a reçue à la chute, elle aime ça se faire adorer. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, laissez pas les yeux sur vous-même. Gardez les yeux sur la croix. Parce que si vous détournez les yeux de la croix, vous allez tomber dans un piège. Et puis là, vous allez vous faire emporter. Donc, ils veulent qu'on reconnaisse leurs attitudes, leurs connaissances, leurs succès, et même, ils vont te mettre en face leur pseudo-souffrance pour Christ. Oh, eux autres, ils font beaucoup de choses pour Christ. On voit ça souvent dans les leaders chrétiens. Ça se voit très souvent dans les leaders chrétiens qui ont tombé sur le feu de l'ennemi. Et puis, comme ils désirent être reconnus, ils parlent trop fort puis ils parlent trop souvent. Et puis, c'est toujours dans le but d'attirer l'attention. La vantardise a toujours été un sérieux problème au niveau des gens religieux. Ça, c'est les gens qui sont religieux, ils sont toujours en train de se glorifier, puis de parler de ce qu'ils ont fait, puis des œuvres qu'ils ont faites cette semaine, tu sais. Puis ça, c'est de la religion. C'est les gens qui sont religieux, qui aiment à se montrer. Et puis, on va voir des exemples ensemble. Il y en a dans les Écritures, des exemples de ça. Et puis, les pharisiens, dans le temps, moralisateurs, les pharisiens légalistes, dans le temps, là, ils aimaient à se montrer en train de prier dans la rue, tu sais, pour attirer l'attention des gens, puis hey, là, le monde, ils voyaient prier, tu sais, puis ils étaient bien habillés avec tout leur habillement. Ils aimaient ça, attirer l'attention des gens. C'était ce qu'on appelle des frimeurs religieux. Dans le fond, ils voulaient juste attirer l'attention sur eux-mêmes. C'est que dans leur cœur, ils priaient pas pendant tout. Ils priaient pas le Seigneur du tout. Ils faisaient semblant, ma petite soeur. En plein ça pour que les gens les regardent. Ils les regardent puis qu'ils les trouvent beaux, qu'ils les trouvent fins, tu sais. Qu'ils les vénèrent. Ils voulaient se faire adorer. Jésus a dénoncé ces comportements-là, hein, dans l'Église. Il a dit, les premiers, il dit, vous autres, vous aimez être assis les premiers dans les synagogues. Ils sont assis en avant, ceux-là, dans les églises. Ils aiment ça être assis en avant. Comme ça, être assis sur stage, tu sais. Ils aiment ça se faire regarder. Et puis, ils aiment ça être respectueusement salués. Ça les gonfle, tu sais, dans les rues. Et ils veulent être loués pour leurs actes de piété, tu sais. Ils veulent être vraiment que le monde les loue. As-tu vu comment est-ce qu'il est dévot, celui-là, tu sais, comment est-ce qu'il est vraiment à Dieu, c'est un homme de Dieu. Pourtant, tout ce qu'il fait, c'est de détourner les regards des autres, tu sais, sur lui-même au lieu de sur Dieu. Un homme de Dieu, là, il amène les gens à regarder à Dieu, pas à lui-même. Et puis dans l'église de Corinthe, il y avait des chrétiens qui se glorifiaient de leur sagesse, vous vous souvenez de ça? Et puis de l'art oratoire qu'avait leur maître, hein? Parce qu'il disait à l'un qui disait, moi je suis de Céphas, l'autre je suis de Paul. Et puis là, c'était rendu à chicane de poignée à cause de ça. Et puis, il disait qu'il avait une expérience spirituelle extraordinaire, mais dans le fond, il était rempli d'eux-mêmes. Hein? Il était pas rempli d'autre chose que d'eux-mêmes. Puis ça, c'est très mauvais d'être rempli de nous-mêmes. Il faut être rempli de Dieu. Amen. Donc, on reconnaît aujourd'hui ce comportement dans nos églises. On voit ça aussi encore dans nos églises. On parle plus que des objectifs. Hein? On met des objectifs, on met des graphiques, puis des objectifs avec des... On met des chiffres, imaginez-vous, sur l'évangélisation, sur les gens. Moi, je trouve ça incroyable. Et aujourd'hui, de voir ça, là, que les gens font des planifications avec des graphiques, pour voir comment est-ce que le monde va être sauvé, comme si c'était eux autres qui sauvaient. Et puis, j'ai écouté une vidéo cette semaine, je fais une petite parenthèse sur une vidéo que Marlène Boisvert et Régin m'ont envoyée sur, c'était un, je vous dirais, un missionnaire qui était donné, qui est venu donner un speech à des jeunes. C'était une prédication qui était assez dure. Qui était assez dure, mais qui était vraie. Le gars, il dénonçait que c'est les jeunes, parce qu'ils mettent un gilet qui s'est marqué Jésus en arrière, ils sont radicaux pour Christ, mais quand ils sont sortis, ils prennent de la drogue, ils vivent dans l'immoralité, puis ils vivent comme le monde. T'sais. Fait qu'ils dénoncent à ça. Parce que moi, j'ai trouvé ça bon, la façon qu'il exprimait ça, ce que j'ai trouvé peut-être qu'il manquait, c'est qu'il manquait un petit peu d'espoir. Moi, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu d'espoir pour les jeunes, parce que la façon que c'était amené, je sais pas si un jeune avait le goût de partir à courir pour Christ. Mais quand même, c'est des choses qui sont bonnes d'être dites parce que c'est la réalité aujourd'hui dans nos églises. Puis je me souviens que ma fille a eu des expériences, puis elle m'a conté des choses. Là. Je les raconterai pas, là, mais c'est ce que ce gars-là disait, c'était ce qu'il décrivait. Là. C'était ce qu'elle me décrivait, donc je me souviens plus du nom du monsieur, en tout cas. Ceux que ça intéresse, écrivez-moi, je vous enverrai le lien. Et puis... dans nos églises, c'est ça, on parle des objectifs, ce qui a été fait, on parle des projets, on parle de nos succès, on parle des budgets, on parle de nos réussites, hein? Et puis, on parle de combien on travaille dur, combien on met d'heures pour le Seigneur, on parle combien de choses qu'on fait pour avoir des chiffres sur des tableaux. Mais dans le fond, c'est des programmes d'hommes. Hein, c'est pas Jésus-Christ qui est là-dedans. C'est des planifications d'hommes. Et puis, ces choses-là sont vides. La vantardise, son essence même, c'est vide. Il n'y a rien en arrière de ça. Et puis, c'est toujours marqué, quelqu'un qui se vante, qui vante ce qui est toujours ce qu'il fait, mais c'est toujours c'est un signe de pauvreté spirituelle. C'est qu'à quelque part, il a besoin d'être rempli de quelque chose parce qu'il est vide. Et puis là, il se met à se vanter pour que les gens se mettent à l'adorer ou se mettent à le trouver bon. Puis ça le remplit. Mais on a vu que c'est pas ça qui nous remplit. C'est la présence de Dieu dans notre position qu'on a reçue. Quand on a accepté Christ, c'est ça qui doit nous remplir. Pas des choses comme ça. Donc, la vantardise est toujours marquée d'une pauvreté spirituelle. Elle n'édifie pas les gens. Elle n'édifie jamais les autres. Elle s'édifie elle-même. Et puis, elle n'honore pas le Christ, le corps de Christ. Elle n'a pour but que s'exalter elle-même. Dans le fond, si on vient à « adore-moi hein, », ils veulent qu'elle se fasse adorer. Et puis, les gens qui sont en contact avec des gens comme ça sont souvent complexés parce que « hey, as-tu vu comment est-ce qu'il est bon l'autre, tu sais? » Puis là, c'est vraiment l'autre, il se met tellement en évidence, il y a tellement le tour de se montrer, tu sais, puis de se montrer bon que les autres. Hein. Ils viennent complexer, ça divise les gens, ça suscite de la jalousie au travers des autres. Donc, la vantardise est particulièrement odieuse, surtout chez un responsable, un gens qui dirige puis qui enseigne la congrégation. On voudrait pas que le corps de Christ suive un tel exemple. On veut pas avoir quelqu'un comme ça qui nous enseigne, qui dédaigne et passe outre la parole du Seigneur. Proverbe 27, 2, ça dit qu'un autre te loue et non ta bouche. Et puis, un étranger et non tes lèvres. En voulant dire, regarde, c'est pas, laisse faire ça, là. Les autres, si c'est un autre, c'est correct, mais si c'est toi, là, t'as pas besoin de faire ça. Les vanteurs s'élèvent au-dessus des autres. Les envieux rabaissent les autres. Et puis, mais les gens remplis d'amour élèvent les autres. Ils sont toujours en train d'élever les autres au lieu de les rabaisser. Et puis, l'amour met toujours les autres en avant et les loue. Hein? L'amour est toujours en train de mettre les autres en avant et de les louer et de dire une qualité de la personne. Tu sais. Et puis, l'amour s'efface et évite de parler de lui-même. Ceux qui sont remplis de l'amour de Christ se plaisent à attirer l'attention sur les autres. Ils n'attirent jamais l'attention sur eux-mêmes. Ils attirent l'attention sur les autres. autour, en les édifiant et en les mettant au centre, la place, en leur donnant toute la place. Dans le contexte des dons spirituels, Paul nous dit dans Romains 12:3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La ligne de démarcation entre parler de nous de façon vantarde et le faire sans vantardise est mince. Hein? Elle est très, très mince. Et puis, c'est pas compliqué, c'est quand la discussion est centrée sur autre chose que Jésus-Christ. Là, ça devient vide. Ça devient de la vantardise, ça devient vide. Et puis, c'est un des signes. Quand c'est plus Jésus-Christ qui est au centre de la discussion, c'est le programme, c'est garder ce qu'on a fait, c'est, tu sais. Non. Là, de tout de suite, on sort des barèmes. Donc, la vantardise, on pourrait dire que c'est à l'opposé de l'humilité. Ensuite, il nous dit, ne soyez pas ni orgueilleux. Ça, c'est un des pires, je pense. L'orgueil, c'est un des pires. C'est ce qui fait le plus de problèmes dans le monde chrétien, dans les églises. Et puis, Marilyn a mort de l'eau. Et puis, il a pu opposer à l'exemple de Christ. Puis le message de l'amour chrétien, l'autosuffisance orgueilleuse. L'orgueil, c'est toujours je me moi, là. C'est toujours, nous, les chrétiens, sommes des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu. Puis, Dieu, en plus, il nous a donné des dons gratuitement, gracieusement, pour servir le corps. Et puis, ces dons-là, c'est des dons spirituels, puis c'est des ministères qu'il nous a donnés. Personne qui a à se glorifier de ça. Là. C'est Dieu qui les a donnés. L'Écriture déclare dans 1 Corinthiens 4:7 ce qui est, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu ne l'as reçu, si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Paul, il dit, arrête de te glorifier pour quelque chose qui t'a été donné. Ça vient même pas de toi. Et puis, l'homme, étant dans sa nature, a toujours tendance à prendre le... Il veut être en avant. Hein? Il veut être... Donc, l'égocentrisme n'a pas sa place. L'égocentrisme n'a pas sa place dans l'œuvre du Seigneur, encore moins chez ceux qui dirigent et instruisent la communauté. Un gros pays. L'arrogance est largement répandue parmi les dirigeants chrétiens de notre temps. L'arrogance fait que nous agissons comme des personnages importants au lieu d'agir comme des serviteurs. On se prend pour des vedettes. Et puis là, c'est toute une affaire. Et là, tu peux pas parler au prédicateur avant qu'il prêche. Puis, attention. Ôtez-vous, torsez-vous, on va faire de la place, là, tu sais. Là, ça devient... Le prédicateur devient... Ça devient une grosse vedette, là. Et puis, c'est le phénomène de la papauté chrétienne. Hein. On a déjà parlé de ça. Là. Les papes, il y en a rendu qu'il y en a un par église à ce heure. Dans l'église chrétienne. Et puis... ces gens-là deviennent le centre d'attraction au lieu que ce soit Christ qui soit le centre d'attraction. Et puis, c'est toujours fait finement. Tu sais, le monde, c'est toujours fait d'une façon bien fine. Et puis, encore une fois, c'est opposé à l'exemple que le Seigneur nous a laissé. Qu'est-ce qu'il nous a laissé comme exemple, le Seigneur, en ce moment? Il s'est ceint d'une ceinture. Et puis, il a lavé les pieds des disciples. Et puis ça, c'est loin d'être l'arrogance ou de l'orgueil, hein. Ça, c'est de l'humilité. C'est notre Dieu lui-même qui sait l'humilier pour venir nous laver. Et puis, on est appelé à avoir ce même comportement-là, les uns envers les autres. À se laver les pieds dans l'humilité, hein. Pas de se croire meilleur que les uns que les autres, puis de se donner de l'importance comme ça. Donc, si je suis un serviteur de Dieu, je devrais toujours me rappeler de ça. Cette serviette-là. Je devrais toujours prendre une serviette pour... Tu sais, m'imaginer que j'ai une serviette autour de mes reins, puis je suis prêt à laver des pieds. Hein? C'est de même qu'on devrait toujours se souvenir de ce que notre Seigneur nous a montré comme exemple. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Dans l'original, c'est gonflé de. Ça se gonfle, tu sais, comme qui se trouve très bon ou très bonne. Et puis on prend l'exemple d'un pneu. Hein? un pneu qui serait gonflé avec de l'air. Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que l'air, l'air, c'est ça. Mais le pneu est gonflé avec quelque chose qui devrait pas être gonflé. Prenez-vous, le pneu, il devrait pas être gonflé. Il devrait être à terre. Puis là, c'est le Seigneur qui pourvoirait. Mais là, vu qu'on gonfle le pneu avec de l'air, c'est tout ce qu'il y a dans l'air. Je sais pas si vous me comprenez. Le prince de la puissance de l'air. Si je gonfle le pneu, je gonfle avec des choses que l'ennemi me suggère. Et puis là, je me mets à rouler avec autre chose que la puissance de mon Seigneur. Je me mets à rouler avec ma propre puissance ou avec tout ce qu'on vient de voir. Donc, est-ce que ça, puis c'est le même principe, pourquoi je vous parle du pneu, mais c'est le même principe que la conscience. Quand je roule avec de l'air, c'est parce que ma conscience est déconnectée sur mon Seigneur, est connectée sur moi. Fait que je roule avec mon air, avec mes propres forces, avec mes, avec, autrement dit, je roule avec quelque chose que je peux rien faire pour Dieu avec. Parce que c'est corrompu. Mais si je, ma conscience est connectée à la bonne place, au Seigneur, ben là, je vais rouler sur la puissance, avec la puissance de Dieu. Puis là, je vais rouler pour Dieu. Je ne roulerai pas pour moi. Comprenez-vous? Donc, on n'est pas rempli. On pourrait dire que quand on n'est pas rempli de la bonne source, on n'est pas rempli de la bonne présence. Donc, on roule avec quelque chose qui nous mène pas dans la bonne direction. Au lieu d'être rempli de la présence du Seigneur, on est rempli de la présence d'une autre présence, du malin, comme JP dit. Et puis un esprit d'orgueil s'est infiltré dans l'église de Corinthe. Hein? Et puis il était à l'origine de nombreux problèmes, de nombreuses disputes. On voit ça dans les Écritures. Paul nous, l'orgueil est le contraire de l'amour, parce qu'il s'intéresse qu'à soi-même plutôt qu'aux autres. L'orgueil, c'est toujours centré sur eux-mêmes. J'en reviens à ma définition, Marie, tu sais, on donne une définition pour l'orgueil. Hein? T'en souviens-tu? C'est quoi? Ah, va y penser. Et puis, les gens orgueilleux, notamment les gens religieux, souvent, c'est dans le monde chrétien, c'est des gens qui sont qu'on peut qualifier de religieux, ils se comparent aux autres, ils s'estiment meilleurs que les autres, en se comparant. Et puis, ils pensent avoir une connaissance supérieure, ils se considèrent plus saints que les autres. Là, ça devrait revenir, ta définition. Hein. Ils pensent avoir une connaissance supérieure, et puis, ils voient pas leur péché qui est flagrant, ils voient pas. Leur faiblesse personnelle et leurs erreurs doctrinales, ils voient pas ça non plus. Ils voient ça des autres. Les leurs, ils voient pas. Et puis, j'en viens à la définition de l'orgueil. Et quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui se place dans une position au-dessus de laquelle il est vraiment. Il se place dans une position qui est pas vraiment. Il s'élève au-dessus des autres. C'est le contraire de ce que Christ nous a montré. Christ nous a dit, si tu veux être serviteur, si tu veux être premier, sois le serviteur en arrière. Il dit, tu vas être le premier dans le royaume. Voyez-vous comment c'est à l'opposé? Luc 18, 11, 12. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de toutes mes revenus. Donc, vous savez que puis l'autre, le publicain à côté, il se frappait à la poitrine, puis il dit, Seigneur, tu te demandes pardon parce que tu es un pécheur. Et puis, quel qui plaisait le mieux à Jésus? C'était le publicain qui avait un cœur contrit, puis il se repentait, hein? L'autre, il se comparait au publicain, il disait, je te remercie, Seigneur, que je suis pas comme ça. Tu sais, voyez-vous comment c'est incroyable d'avoir une trop haute opinion de nous autres mêmes. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 23, versets 11 et 12, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est l'humilité de cœur qui doit être le signe distinctif de ceux qui servent le Seigneur. L'arrogance, c'est la marque du diable. Quand on voit quelqu'un d'arrogant, ça vient directement du diable. Et puis, c'est pour ça que personnellement, j'ai beaucoup de difficultés avec quelqu'un d'arrogant. Je peux endurer beaucoup de choses, mais quelqu'un qui est arrogant, j'ai tendance vraiment, ça me met hors de moi. Quand je vois quelqu'un qui est arrogant, là, j'ai plus de difficultés. Faut que je prie beaucoup quand quelqu'un en face de moi qui est arrogant comme ça. C'est arrivé à quelques occasions, là. Et puis, ça m'a vraiment pris toute la puissance de Dieu pour pas répondre à ça, puis pour pas entrer dans cette arrogance-là, là, qui vient de l'ennemi. Ça vient directement de l'ennemi. Quelqu'un qui est arrogant, il est directement influencé de l'ennemi. Et puis, Ésaïe 14, versets 13 et 14, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. C'était Satan qui disait ça. Il voulait être comme Dieu. Il veut prendre la place de Dieu. Par contre, on voit qu'il n'y a rien qui éloigne autant le chrétien des griffes du diable que l'humilité. Si je prends une attitude humble, le diable n'a aucun pouvoir sur moi. Parce que j'ai une attitude humble. Si je commence à être orgueilleux, si je commence à vouloir me garder mon point ou commencer à être arrogant, là, je peux tomber dans les griffes du diable. Mais si je prends une attitude humble, le serviteur, le diable ne peut pas m'influencer. Fait que peut-être une clé ici. On a dans le Nouveau Testament un exemple de dirigeant enflé d'orgueil. Vous souvenez-vous, c'était qui? Pas, vous n'avez pas d'idée? On voit ça dans 3 Jean 1, 9 et 10. Jean lui dit, j'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Diotrephe. Et puis, Diotrephe, il était tellement enflé d'orgueil qu'il critiquait le bien-aimé apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. Et vous pensez? Ouais, c'est incroyable. Quand on est enflé d'orgueil, qu'est-ce qu'il peut nous faire faire? Et puis, il refusait de l'écouter, puis même de le recevoir. Parce qu'il disait, c'est moi le premier, ça. C'est moi qui ai le pupitre, ça. Et puis, il faisait du mal à tous ceux qui n'étaient pas d'accord. En plus, ceux qui se levaient, ils disaient, mais là, tu sais, c'est gens, ça, non. Toi, t'es pas avec moi, t'es contre moi, toi. Et puis là, il se mettait à leur faire du mal, il créait une atmosphère de crainte au sein de l'Église. Il imposait sa façon de voir. Il édifiait pas les gens, il les écrasait. Il unissait pas les gens, il les divisait. Ça ne dérangeait pas de diviser les gens. Du tout. Diviser les familles, pas grave. Rendu que moi, je suis le boss. Je suis le premier. Il imposait sa façon de voir. Et puis, il acceptait pas de partager le ministère avec ses pairs. Et ses collègues comme Paul. Il refusait les saintes réprimandes et des instructions, et il divisait les membres et causait du tort au corps de Christ. Il n'avait pas un cœur contrit devant Dieu. Imaginez-vous tout le tort que ça fait dans l'Église, d'avoir un tempérament comme ça. On achève. Maintenant, on va voir que l'amour est humble et modeste. L'amour est opposé, complètement l'opposé de ça. Par sa nature, l'amour est le contraire de l'orgueil. On va voir quelques versets. On va voir pas mal de versets. Ensuite, on va arriver à la conclusion. Donc, Romains 12, 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. L'esprit de l'amour recommande d'ayez les mêmes sentiments. Romains 12, 16. ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Puis nous autres, on est pas mal dans l'humilité ici, hein? Et puis ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne soyez jamais sages. La parole nous dit toujours de nous examiner nous-mêmes à la lumière de ce que la parole de Dieu dit. Puis si on fait pas ça, si on se fie à ce qu'on voit autour de nous autres pour établir nos barèmes, on va se faire avoir. La Bible dit évaluez-vous vous-même, examinez-vous vous-même à la lumière de la parole de Dieu. Pierre exhorte les anciens de l'Église, de même vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Il dit, dans les rapports, ça devrait, ce qui ressort, ça devrait être humilité, doux et humble, pas arrogant et orgueilleux. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Paul rappelle aux anciens quand que lui servait le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs. Et puis, il a toujours resté humble et calme, malgré tout ça. L'humilité, pour terminer, caractérise l'état d'esprit du serviteur de Christ. Sans humilité, il est impossible d'être un conducteur qui ressemble à Christ, parce que Christ était humble. Christ était Dieu, et puis il est venu s'humilier. Et puis, si j'ai pas l'humilité, je peux pas ressembler à Christ. Je peux pas être un serviteur de Christ. Donc, les conducteurs et les enseignants aimants sont toujours des conducteurs humbles et modestes. C'est l'orgueil qui transforma le diable en ce qu'il est aujourd'hui. Voyez-vous qu'est-ce que ça peut faire dans notre vie, l'orgueil? Si on écoute l'orgueil, on voit des très grands dégâts dans notre vie. L'orgueil est un état d'esprit dirigé sur nous-mêmes est complètement opposé à Dieu. L'orgueil, c'est opposé à Dieu tout le temps, s'oppose à Dieu tout le temps. Amen? Donc, on va prier, on va demander au Seigneur de nous garder de cet orgueil-là, de nous garder humbles, et puis de garder ses serviteurs, et puis après ça, on va faire un appel, si vous voulez, et puis on va demander s'il y a des gens qui voudraient accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur. Donc, on va prier ensemble. Donc, Père, garde-nous de cet orgueil qui s'oppose continuellement à toi. Fais de nous des serviteurs humbles et demains et modestes pour la gloire du nom de ton Fils Jésus, Père. Puis, Seigneur, si tu ne le fais pas en nous, on ne pourra pas avoir ce... Tu ne nous donnes pas, si tu ne nous fais pas cette grâce-là, on ne pourra pas arriver à être des serviteurs humbles et doux, comme Christ à l'image de Christ. Et puis, on te demande de faire ça dans nos vies, Seigneur, de nous montrer quand on a une attitude orgueilleuse, de nous montrer quand on a une attitude arrogante, qu'on ne travaille pas pour le bon royaume. On manifeste pas le bon royaume quand on est comme ça. Peu importe les gens qui sont en avant de nous. Ce n'est pas l'amour de Christ qui est manifesté quand on a ces attitudes-là, Seigneur. Puis on te demande de le faire, de nous montrer nos cœurs et puis d'enlever ce qu'il y a de mauvais dans nos cœurs et de le remplacer par ta portion. Et puis, si tu as entendu ce message aujourd'hui, que tu aimerais avoir cette relation avec Christ, premièrement, tu dois savoir qu'il y a une séparation présentement. L'humanité, dans son état actuel, est séparée de Dieu. On peut voir ça dans Romains 3, 23, puis dans Romains 6 aussi. Par contre, cette séparation, ça dit qu'il n'y a rien que tu peux faire par toi-même pour l'enlever. Il n'y a rien que tu peux faire par tes propres forces qui peut faire que tu vas enlever cette séparation, que ça va t'ouvrir les portes du ciel. Par contre, dans Jean 3, 16, ça dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et qu'il ait la vie éternelle. Puis en Jean 1, 12, ça dit à celui qui a cru, qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Donc, on voit que tu n'as rien à faire, que tu ne peux pas rien faire de toute façon aussi, sauf que Dieu a pourvu à la solution, et Dieu c'est un gentleman, il veut te faire ce cadeau, mais si tu ne l'acceptes pas, il va repartir avec son cadeau. Et puis toi, ce que tu as à prendre comme décision, et si aujourd'hui tu te repens d'avoir mené ta vie sans Dieu, à ta manière, et tu te demandes pardon au Seigneur, et que tu acceptes ce cadeau, que tu veux accepter ce cadeau que Jésus-Christ, de Jésus-Christ qui a payé pour toi à la croix, la condamnation qui pesait sur toi, mais la Bible dit aujourd'hui même que tu deviendras un enfant de Dieu. Et puis Dieu regarde au cœur, et puis c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Si tu décides de prendre cette décision aujourd'hui, de te repentir, et puis de recevoir Christ comme ton sauveur personnel. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu vas naître de nouveau, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et puis la Bible dit que tu vas passer l'éternité dans la présence de Dieu. Et si tu veux, on va prier avec toi et puis après, on va prier pour toi. Puis si tu veux prendre cette décision aujourd'hui, de te repentir et puis d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, comme maître et Seigneur, mais tu n'as qu'à prier avec nous. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. J'ai entendu que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Je le crois et je l'accepte. Seigneur, viens dans mon cœur et sauve-moi. Seigneur Jésus, je veux prier pour les gens qui ont fait cette prière. Que tu touches leur cœur maintenant puissamment de ton amour, Seigneur. Qu'ils puissent être sauvés. Seigneur, envoie-leur des ouvriers, qu'ils deviennent tes disciples, Seigneur, qu'ils deviennent le sel et la lumière. Pour ta gloire, Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. Merci beaucoup.